Soyez les bienvenus à l'écoute des RFI. Bonsoir, il est 20h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
En République démocratique du Congo, la formation d'une coalition contre la réforme de la Constitution, coalition pour faire barrage à un troisième mandat du président Tshisekedi. Elle est appelée Sursaut National et elle regroupe des personnalités politiques, des membres de la société civile ainsi que des défenseurs des droits humains. En Côte d'Ivoire, le FPI réuni en congrès désigne Pascal Affine-Guessant comme candidat à la présidentielle de 2025. Le Soudan du Sud, près d'1,5 million de sinistrés, au moins 319 000 personnes déplacées, c'est le bilan des graves inondations qui ont frappé le pays. Une nouvelle coalition a vu le jour en République démocratique du Congo pour combattre la volonté de réforme constitutionnelle du président Tshisekedi, Sursaut National. Elle s'appelle ainsi, elle est composée de leaders de la société civile comme par exemple la Lucha ou encore l'Azado, mais aussi d'acteurs du monde politique comme l'ancien candidat à la présidentielle Déli Sessanga. Celui-ci explique que la coalition souhaite empêcher un troisième mandat du président Tshisekedi et défendre le dernier rempart de la démocratie congolaise, c'est-à-dire la Constitution.
La dictature, c'est déjà le non-respect de la loi, le non-respect des institutions établies, des textes de notre Constitution qui sont violés à longueur de journée par M. Tshisekedi et les siens, mais c'est aussi le rétrécissement de l'espace politique où les opposants et les voix dissonantes sont aujourd'hui constamment mis en prison sans ménagement pour des délits d'opinion. Il y a une vraie régression démocratique dans notre pays et contre laquelle, à mon avis, il faut se mettre debout et la Constitution représente pour le peuple congolais, les démocrates et les patriotes, le dernier rempart que M. Tshisekedi veut aujourd'hui abattre. Et la particularité de cette initiative, c'est d'inviter notamment tous les responsables politiques à se prononcer. Parce que face au péril de la nation, nous voulons savoir qui sont ceux du côté de la loi, du respect du droit et des acquis de notre démocratie et qui sont du côté de la trahison.
Des propos recueillis par Victor Moria. Direction à présent la Côte d'Ivoire, à 11 mois de la présidentielle. Le 5e congrès du FPI qui s'est tenu à Yamoussoukro vient de reconduire Pascal Affine-Guessant à sa tête. Cet ancien Premier ministre a également été désigné pour représenter le parti lors de la présidentielle d'octobre 2025. En ligne avec nous de Yamoussoukro, notre envoyé spécial Abdoul Aziz Diallo. Que faut-il retenir de cette deuxième journée du congrès du FPI?
Le Front populaire ivoirien renouvelle donc sa confiance envers Pascal Affine-Guessant. L'ex-premier ministre a été élu avec plus de 99% des voix. Son principal challenger, l'avocat Pierre Dabo-Godé, absent car suspendu des instances du FPI pour ses critiques envers la direction actuelle, n'a récolté que 0,66%. C'est aussi Pascal Affine-Guessant, vous l'avez dit, qui va défendre les couleurs du parti lors de l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Il a été désigné par acclamation de ses camarades. Ce 5e congrès du FPI s'est tenu sur fond d'une dissidence au sein du parti qui a abouti à la naissance il y a 2 semaines à un mouvement politique dénommé Démocratie et Valeurs. L'un des meneurs, Issiaka Sangaré, dénonçait au micro de RFI ce qu'il qualifie d'un déni de démocratie et un simulacre de congrès. Fin de citation. Issiaka Sangaré et Pierre Dagbo-Godé, qui a assigné le parti en justice, écopent chacun d'une suspension d'une durée de 5 ans. Les autres dissidents s'en sortent avec une suspension de 3 ans. Selon la présidente du Congrès, ils se sont comportés comme des ennemis du FPI. Fin de citation. Autre moment fort de cette rencontre de Yamoussoukro, le message de Pascal Affine-Guessant à l'endroit de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. C'était hier à l'ouverture des travaux, l'invitant donc à ne pas se présenter pour un nouveau mandat pour, je cite, éviter de plonger le pays dans une nouvelle crise. Il ne doit pas écouter l'audateur qui l'incite à briguer un 4e mandat, a-t-il martelé.
Merci Abdoul Aziz Diallo, en direct de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour Afrique Soir. Ce sont les pires inondations qui ont touché le Soudan du Sud depuis au moins plusieurs décennies. Plus 1,5 million de personnes sinistrées. Voilà le bilan revu à la hausse par l'OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Simon Rosé.
Le dernier bulletin sur le Soudan du Sud, publié par l'OCHA, fait état d'une situation qui se détériore. Le précédent, publié il y a un mois, recensait 900 000 personnes affectées par les inondations. Bilan qui passe désormais à 1 400 000 avec ces chiffres réactualisés. Parmi ces personnes, 379 000 ont dû fuir leur habitation. C'est principalement tout le nord du pays qui est concerné. On citera le comté de Fangak, où plus de 200 000 personnes ont directement été touchées. Comté par ailleurs refuge de nombreux déplacés qui ont fui les combats dans d'autres régions du pays, notamment ceux en provenance de la frontière dans la zone disputée avec le Soudan. Aux conséquences humaines et matérielles directes des inondations, il faut également ajouter les conséquences sanitaires. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies s'inquiète en effet d'une recrudescence des cas de paludisme dans tout le nord du pays. Selon l'OCHA, les infrastructures de santé sont d'ores et déjà dépassées, ce qui amplifie encore plus la lourdeur du bilan des pluies et des crues.
Le Tchad, après 2 semaines aux côtés de ses troupes pour une contre-offensive contre Boko Haram dans la région du lac Tchad, le président Mahamat Dibi Itno est rentré à N'Djamena. Ce samedi, le chef de l'État a dirigé lui-même le lancement de cette opération de représailles à l'attaque par le groupe djihadiste d'une base militaire dans la province du lac. Elle avait fait 40 de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Les prix Earthshot, créés par le prince William de la couronne britannique, récompensent chaque année des initiatives novatrices dans le secteur de l'environnement. La 4e édition s'est déroulée cette semaine en Afrique du Sud, au Cap. Et parmi les 5 heureux lauréats qui empochent chacun 1 million de livres, c'est-à-dire 1,2 million d'euros, figurent 2 Africains, la correspondance de Claire Bargelès.
Dans la catégorie créer un monde sans gaspillage, c'est une start-up kényane qui a su s'imposer. Keep It Cool repense la commercialisation des poissons pêchés au niveau des lacs Victoria et Turkana. Des solutions sont proposé aux petits pêcheurs afin de maintenir la chaîne du froid, notamment avec des glacières solaires. Il est estimé que le gaspillage de près d'un quart des prises est ainsi évité. De plus, ces pêcheurs sont directement connectés aux acheteurs, assurant des revenus plus stables. Ces services fonctionnent de la même manière pour les petits producteurs de poulet. En Afrique de l'Ouest, eux aussi s'attaquent à la question des déchets, cette fois-ci pour limiter les émanations liées aux incinérations dans les décharges à ciel ouvert. GAIO, l'organisation de la jeunesse pour une Afrique verte, a remporté le prix dans la catégorie « Purifier notre air ». Basé au Ghana, ce groupe de jeunes aide des communautés vulnérables à tirer profit d'une valorisation des déchets. Depuis 2019, 70 emplois pour des jeunes, des femmes seules et des personnes handicapées ont été créés. Et l'année dernière, l'organisation a permis d'éviter que 170 tonnes de déchets ne finissent dans des décharges. Kayo a aussi des branches en Ouganda et au Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
À Shanghai, le Salon international des importations se poursuit jusqu'à demain. Les pays africains défendent leurs produits agricoles et parmi eux, la Tanzanie, pour qui c'est l'occasion de renforcer ses liens étroits avec la Chine. Claire Broadhurst.
La Tanzanie est partenaire de Pékin depuis très longtemps. Ils exportent des produits agricoles et ils importent depuis la Chine des machines industrielles, comme l'explique Latifa Mohamed Ramiz, directrice générale de l'autorité tanzanienne pour le développement du commerce. Ceci grâce à plusieurs accords commerciaux conclus entre les deux pays.
La Chine joue un rôle essentiel dans la formation. Nous avons des projets d'infrastructure et le principe de zéro tarif, introduit par le président Xi Jinping, est très favorable aux pays africains. Nous venons en Chine pour attirer les investisseurs. Les Chinois, eux, viennent saisir les opportunités d'investissement en Tanzanie.
La Chine est le premier partenaire commercial de la Tanzanie. C'est pourquoi Pékin s'est engagé à investir plus $1 milliard pour remettre en état la ligne de la Tanzania-Zambia Railway Authority, Tazara, une voie ferrée stratégique qui s'étend sur 1860 km entre la ceinture de cuivre de la Zambie et le port tanzanien de Dar es Salaam.
La Tanzanie a une position centrale en Afrique. C'est pourquoi les Chinois arrivent chez nous pour avoir accès à n'importe quel autre pays du continent. Que ce soit en train, par route ou par avion, depuis la Tanzanie, vous pouvez aller au Kenya, au Rwanda, au Burundi, dans n'importe quel pays africain. La Tanzanie a une position stratégique et par ailleurs, elle bénéficie d'une situation politique stable.
Des relations vouées à perdurer, car selon elle, la Chine a compris l'importance du continent dans le commerce mondial. Cléa Broadhurst, Shanghai, RFI.
La Ligue des champions féminins de football. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé 2-0 face aux Sud-Africaines de Western Cape et les Marocaines de l'AS FAR ont balayé les Sénégalaises des Aigles de la Médina sur le score de 3-0. C'est la fin de cette édition. Il est 20h40 ici à Paris.